Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Lecture en liberté, Denis Flagel.
Bonsoir. Nous nous retrouvons donc dans nos lectures en liberté et je vous propose de démarrer cette semaine par quelques extraits de ce roman de Alice Zeniter, L'art de perdre. Prologue. Depuis quelques années, Naïma expérimente un nouveau type de détresse. Celui qui vient désormais de façon systématique avec les gueules de bois. Il ne s'agit pas simplement d'un mal de crâne, d'une bouche pâteuse ou d'un ventre tordu et inopérant. Lorsqu'elle ouvre les yeux après une soirée trop arrosée, elle a dû les espacer davantage, elle ne pouvait pas supporter qu'il s'agisse d'une misère hebdomadaire, encore moins bi-hebdomadaire. La première phrase qui lui vient à l'esprit est « Je ne vais pas y arriver ». Pendant quelque temps, elle s'est demandé à quoi se rapportait cet échec certain. La phrase pouvait évoquer son incapacité à supporter la honte que lui procure chaque fois son comportement de la veille. « Tu parles trop fort, tu inventes des histoires, tu recherches systématiquement l'attention, tu es vulgaire. » Ou le regret d'avoir tant bu et de ne pas savoir s'arrêter. C'est toi qui as crié « Allez, oh, on ne va pas rentrer se coucher comme ça !» La phrase pouvait aussi se rattacher au mal-être physique qui la broie. Et puis, elle a compris. Pendant les journées de gueule de bois, elle touche du doigt l'extrême difficulté que représente être vivant et que la volonté réussit d'ordinaire à masquer. Je ne vais pas y arriver. Globalement, à me lever chaque matin, à manger trois fois par jour, à aimer, à ne plus aimer, à me brosser les cheveux, à penser, à bouger, à respirer, à rire. Il arrive qu'elle ne puisse pas le cacher et que l'aveu lui échappe lorsqu'elle entre dans la galerie. Comment tu te sens ? Je ne vais pas y arriver. Kamel et Élise rient ou haussent les épaules. Ils ne comprennent pas. Naïma les regarde évoluer dans la salle d'exposition avec une gestuelle à peine ralentie par les excès de la veille, épargnée par cette révélation qui l'écrase. La vie quotidienne est une discipline de haut niveau et elle vient de se disqualifier. Comme elle n'arrive à rien, il faut que les journées de gueule de bois soient vides de tout. Des bonnes choses qui ne pourraient que s'y gâcher et des mauvaises qui ne rencontreraient aucune résistance et détruiraient tout à l'intérieur. La seule chose que les journées de gueule de bois tolèrent, ce sont les assiettes de pâtes avec un peu de beurre et de sel, des quantités rassurantes et un goût neutre, presque inexistant. Et puis des séries télé. Les critiques ont beaucoup dit ces dernières années que l'on avait assisté à une mutation extraordinaire, que la série télé s'était hissée au rang d'œuvre d'art, que c'était fabuleux. Peut-être. Mais on n'ôtera pas de l'esprit de Naïma que la vraie raison d'être des séries télé, ce sont les dimanches de gueule de bois qu'il faut parvenir à remplir sans sortir de chez soi. Le lendemain, c'est chaque fois un miracle. Quand le courage de vivre revient, l'impression de pouvoir accomplir quelque chose, c'est comme renaître. C'est probablement parce que les lendemains existent qu'elle boit encore. Il y a les lendemains de cuite, l'abîme, et les lendemains de lendemain, la joie. L'alternance des deux produit une fragilité sans cesse combattue dans laquelle est pétrie la vie de Neyma. Ce matin-là, elle attend le matin suivant comme d'habitude et comme la chèvre de M. Seguin attend le lever du soleil. De temps en temps, la chèvre de M. Seguin regardait les étoiles danser dans le ciel clair et elle se disait « Oh, pourvu que je tienne jusqu'à l'aube !» Et puis alors que ses yeux éteints se perdent dans le noir du café où se reflète le plafonnier, il se glisse une seconde pensée à côté de l'usuelle pensée parasitaire et violente. « Je ne vais pas y arriver. » C'est une déchirure en quelque sorte perpendiculaire à la première. D'abord, la pensée passe si vite que Neyma ne parvient pas à l'identifier. Mais par la suite, elle commence à distinguer les mots plus clairement. C'est ce que font vos filles dans les grandes villes. D'où vient cette bribe de phrase qui lui traverse la tête en une série d'allers-retours? Elle part travailler. Au fil de la journée, d'autres mots s'agglomèrent autour du fragment initial. Porte des pantalons, boivent de l'alcool, se conduisent comme des putes. Vous croyez qu'elles font quoi quand elles disent qu'elles font des études? Et alors que Neyma cherche désespérément quel est son lien avec cette scène, était-elle présente quand ce discours a été tenu? L'a-t-elle entendue à la télévision? Tout ce qu'elle réussit à faire affleurer à la surface de sa mémoire grippée, c'est le visage furieux de son père Hamid, sourcils froncés, lèvres pincées pour ne pas hurler. « Vos filles qui portent des pantalons se conduisent comme des putes, elles ont oublié d'où elles viennent. » Le visage de Hamid, pris dans un masque de colère, se superpose aux photographies d'un artiste suédois accroché dans la galerie tout autour de Neyma, et chaque fois qu'elle tourne la tête, elle le voit flottant à mi-hauteur du mur blanc sur les verres sans reflet qui abritent les œuvres. C'est Mohamed qui a dit ça au mariage de Fatia, lui apprend sa sœur au téléphone le soir même. Tu ne te souviens pas? Et il parlait de nous? De toi, non. Tu étais trop petite, tu devais encore être au collège. Il parlait de moi et des cousines. Le plus drôle. Myriam se met à rire et le son de ses gloussements se mêle au grésillement étrange de l'appel longue distance. Quoi? Le plus drôle, c'est qu'il était complètement bourré quand il a voulu nous donner à toutes une grande leçon de morale musulmane. Tu te souviens vraiment de rien? Quand Neyma gratte sa mémoire avec patience et acharnement, elle en déterre de petits morceaux d'images. La robe blanche et rose de Fatia, en tissu synthétique brillant. Le barnum pour le vin d'honneur dans le jardin de la salle des fêtes. Le portrait du président Mitterrand dans la mairie. Il est trop vieux pour ça, avait-elle pensé. Les paroles de chansons de Michel Delpech sur le Loir-et-Cher, le visage empourpré de sa mère. Clarisse rougit par les sourcils, ça a toujours amusé ses enfants. Celui douloureusement contracté de son père et puis les propos de Mohamed. Elle le revoit maintenant titubant au milieu des invités en plein après-midi dans un costume beige qui le vieillissait. Qu'est-ce que vous croyez qu'elles font vos filles dans les grandes villes? Elles disent qu'elles partent pour les études, mais regardez-les, elles portent des pantalons, elles fument, elles boivent, elles se conduisent comme des putes. Elles ont oublié d'où elles viennent. Cela fait des années qu'elle n'a pas vu Mohamed à un repas de famille. Elle n'avait jamais fait le lien entre l'absence de son oncle et cette scène qui ressurgit dans sa mémoire. Elle avait simplement pensé qu'il avait enfin commencé sa vie d'adulte. Il était longtemps resté dans l'appartement de ses parents, silhouette tardivement adolescente, avec ses casquettes, ses vestes de survêtement fluo et son chômage désabusé. La mort d'Ali, son père, lui avait donné une excellente raison de s'attarder encore. Sa mère et ses sœurs l'appelaient par la première syllabe de son prénom, étirée à l'infini, d'une pièce à l'autre de l'appartement, ou bien par la fenêtre de la cuisine quand il traînait sur les bancs du terrain de jeu. « Mo !» Naïma se souvient que lorsqu'elle était petite, il venait de temps en temps passer le week-end chez eux. « Il a des peines de cœur », expliquait Clarisse à ses filles avec la compassion quasiment médicale de ceux qui vivent une histoire d'amour si longue et si paisible qu'elle paraît avoir effacé jusqu'au souvenir même des peines de cœur. Dans sa tenue bariolée et ses baskets montantes, Mo paraissait toujours un peu ridicule à Naïma et ses sœurs lorsqu'il marchait dans le grand jardin de leurs parents ou s'asseyait sous la tonnelle avec son frère aîné. Maintenant qu'elle y repense, incapable de savoir ce qu'elle invente sur le moment pour pallier le souvenir érodé et ce qu'elle a inventé à l'époque pour se venger d'être tenue à l'écart des discussions d'adultes, il était malheureux pour bien d'autres raisons que ses histoires d'amour. Elle croit l'entendre parler de sa jeunesse ratée, ponctuée de canettes de bière dans les cages d'escalier et de petits deals de shit. Elle croit l'entendre dire qu'il n'aurait jamais dû arrêter le lycée, à moins que ce soit Hamid ou Clarisse qui se permettent un jugement rétrospectif. Il dit aussi à son frère que la cité dans les années 80 n'avait plus rien à voir avec celle que Hamid avait connue et qu'on ne peut pas lui en vouloir de ne pas avoir cru à des débouchés. Elle croit l'avoir vu pleurer sous les fleurs sombres de la clématite pendant que Hamid et Clarisse murmuraient des paroles apaisantes, mais elle n'est sûre de rien. Il y a des années qu'elle n'a pas pensé à Mohamed. Il lui arrive souvent de faire la liste silencieuse de ses oncles et tantes uniquement pour vérifier qu'elle n'en oublie pas, et il lui arrive parfois d'en oublier, ce qui la désole. Autant qu'elle se souvienne, il a toujours été triste. Est-ce qu'elle a oublié d'où elle vient ? Quand Mohamed dit ces mots, il parle de l'Algérie. Il en veut aux sœurs de Naïma et à leur cousine d'avoir oublié un pays qu'elles n'ont jamais connu. Et lui non plus d'ailleurs, puisqu'il est né dans la cité de Pontferrand. Qu'est-ce qu'il y a à oublier ? Bien sûr, si j'écrivais l'histoire de Naïma, ça ne commencerait pas par l'Algérie. Elle est née en Normandie. C'est de ça qu'il faudrait parler, des quatre filles de Hamid et Clarisse qui jouent dans le jardin, des rues d'Alençon, des vacances dans le Cotentin. Et pourtant, si l'on en croit Naïma, l'Algérie a toujours été là quelque part. C'était une somme de composantes, son prénom, sa peau brune, ses cheveux noirs, les dimanches chez Yema. Ça, c'est une Algérie qu'elle n'a jamais pu oublier, puisqu'elle la portait en elle et sur son visage. Si quelqu'un lui disait que ce dont elle parle n'est en rien l'Algérie, que ce sont des marqueurs d'une immigration maghrébine en France dont elle représente la seconde génération, comme si on n'arrêtait jamais d'immigrer, comme si elle était elle-même en mouvement, mais que l'Algérie est par ailleurs un pays réel, physiquement existant, de l'autre côté de la Méditerranée, Naïma s'arrêterait peut-être un moment et puis elle reconnaîtrait que oui, c'est vrai, l'autre Algérie, le pays, n'a commencé à exister pour elle que bien plus tard, l'année de ses 29 ans. C'est long de faire ressurgir un pays du silence, surtout l'Algérie. Sa superficie est de 2 380 741 km², ce qui en fait le 10e plus grand pays du monde, le premier sur le continent africain et dans le monde arabe. 80% de cette surface est occupée par le Sahara. Cela, Naïma le sait, par Wikipédia. pas par les récits familiaux, pas pour avoir arpenté le sol. Quand on est réduit à chercher sur Wikipédia des renseignements sur un pays dont on est censé être originaire, c'est peut-être qu'il y a un problème. Peut-être que Mohamed a raison. Alors, ça ne commence pas par l'Algérie. Ou plutôt si. Mais ça ne commence pas par Neymar.
I've got memories, I keep them away from me. They won't be here, won't be what I want them to be. I've seen it all and it's all done. I've been with everyone and no one. So many squandered moments, so much wasted time. So busy chasing dreams, I left myself behind. I've seen it all and it's all done. I've been with everyone and no one. So this time slowly, you seem better than shooting myself. This time slowly, you seem better than shooting myself. These worms, darling, they're nibbling away at me. They go out when I'm sleeping, won't let me get to my feet. I've seen it all and it's all done. I've been with everyone and no one. Dying slowly, you seem better than shooting myself. This dying slowly, you seem better than shooting. If I could find no words to explain this fear, then I would shout them out. If I could find out honestly what's inside me, I would shout it out. So this time slowly, you seem better than shooting myself. This time slowly, you seem better than shouting it out. Some coffee, pull on that good pair of pants. I can get so far towards it, the feeling just falls away. I've seen it all and it's all done. I've been with everyone and no one. I'm just tired, baby, I just need to lay down. I'm just tired, darling, I just need to lay down. I'm just tired, baby, I just need to lay down. I'm just tired, darling, just need to lay down. I'm just tired, darling.
Lecture en liberté, Denis Flagel.
L'art de perdre, Alice Zénitaire. Partie 1, l'Algérie de papa. Sous prétexte qu'un coup d'éventail que le deig d'Alger donna au consul de France dans un moment de colère, à moins qu'il ne se fût agi d'un chasse-mouche, les versions divergent. La conquête de l'Algérie par l'armée française commence en 1830, au début de l'été, dans une chaleur écrasante qui ne fera que croître. Si l'on accepte qu'il s'agissait d'un chasse-mouche, il faut, en se représentant la scène, ajouter au soleil de plomb les vrombissements des insectes d'un noir bleuté tournant autour des visages des soldats. Si l'on penche pour l'éventail, il faut se dire que l'image orientalisée, cruelle et efféminée du dais qui s'y dessine n'est peut-être que la piètre justification d'une vaste entreprise militaire. Comme l'est le coup porté à la tête d'un consul, quel que soit l'instrument utilisé. Parmi les différents prétextes à la déclaration d'une guerre, j'avoue qu'il se dégage toutefois de celui-ci une certaine poésie qui me charme. Surtout dans la version de l'éventail. La conquête connaît plusieurs étapes, parce qu'elle nécessite des batailles contre plusieurs Algéries. Celle du régent d'Alger, tout d'abord. Celle de l'émir Abdelkader, celle de la Kabylie, et enfin, un demi-siècle plus tard, celle du Sahara, des territoires du Sud, comme on les appelle en métropole, et ce nom est à la fois mystérieux et banal. De ces Algéries multiples, les Français font des départements français. Ils les annexent, ils les rattachent. Ils savent déjà ce qu'est une histoire nationale, une histoire officielle, c'est-à-dire une vaste panse dans laquelle peuvent être incorporés de larges pans de terre pour peu que ceux-ci acceptent qu'on leur attribue une date de naissance. Lorsque les nouveaux venus s'agitent à l'intérieur de la grande panse, l'histoire de France ne s'inquiète pas plus que l'homme qui entend son ventre gargouiller. Elle sait que le processus de digestion peut prendre du temps. L'histoire de France marche toujours aux côtés de l'armée française. Elles vont ensemble. L'histoire est Don Quichotte et ses rêves de grandeur. L'armée est Sancho Panza qui trottine à ses côtés pour s'occuper des sales besognes. L'Algérie, à l'été 1830, est clanique. Elle a des histoires. Or, quand l'histoire se met au pluriel, elle commence à flirter avec le conte et la légende. La résistance d'Abdelkader et de sa Smala, bourgade ambulante qui paraît flotter sur le désert, résistance de sabres, de burnous et de chevaux, semble tout droit tirée des mille et une nuits quand on la regarde depuis la métropole. Ces charmants d'exotisme ne peuvent s'empêcher de murmurer quelques parisiennes en repliant leur journal. Et dans le charmant, il faut bien sûr entendre que ce n'est pas sérieux. L'histoire plurielle de l'Algérie n'a pas le poids de l'histoire officielle, celle qui unifie. Alors les livres des Français avalent l'Algérie et ses contes et ils les transforment en quelques pages de leur histoire à eux, celle qui paraît être un mouvement précis tendu entre les jalons de dates apprises par cœur dans lesquels le progrès soudain s'incarne, se cristallise et irradie. Le centenaire de la colonisation en 1930 est une cérémonie de l'avalement au cours de laquelle les Arabes sont de simples figurants, décoratifs comme des colonnades d'un autre âge, comme des ruines romaines ou une plantation d'arbres exotiques et anciens. Déjà pourtant des voix s'élèvent de part et d'autre de la Méditerranée. Pour que l'Algérie ne soit pas que le chapitre d'un livre qu'elle n'a pas eu le droit d'écrire. Pour le moment, semble-t-il, personne ne les entend. D'autres acceptent les versions officielles avec joie et se livrent à des compétitions de rhétorique pour mieux vanter l'œuvre civilisatrice qui suit son cours. D'autres encore se taisent. Parce qu'elles s'imaginent que l'histoire se déroule dans un univers parallèle au leur, un monde de rois et de guerriers dans lequel elles n'ont pas de place, pas de rôle à jouer. Ali, lui, croit que l'histoire est déjà écrite et qu'au fur et à mesure qu'il avance, elle ne fait que se dérouler, se révéler. Toutes les actions qu'il accomplit ne sont pas possibilités de changement, mais de dévoilement. Mektoub, c'est écrit. Il ne sait pas bien où, peut-être dans les nuages, peut-être dans les lignes de la main, ou à l'intérieur du corps, en caractère minuscule, peut-être dans la prunelle de Dieu. Il croit au Mektoub par plaisir, parce qu'il trouve agréable de ne pas avoir à décider de tout. Il croit aussi au Mektoub, parce qu'un peu avant ses 30 ans, la richesse lui est tombée dessus, presque par hasard. Et penser que c'était écrit lui permet de ne pas se sentir coupable de sa bonne fortune. C'est peut-être la malchance d'Ali, se dira plus tard Neyma quand elle tentera d'imaginer la vie de son grand-père. Avoir connu la chance qui tourne sans y avoir été pour rien. Avoir vu se réaliser les espérances sans avoir eu besoin d'agir. De la magie est entrée dans sa vie. Et cette magie-là, ainsi que les comportements qu'elle entraîne avec elle, il est difficile de s'en défaire. La chance brise les pierres, dit-on parfois là-haut, sur la montagne. C'est ce qu'elle a fait pour Ali. Dans les années 1930, il n'est qu'un adolescent pauvre de Kabylie. À l'instar de beaucoup de garçons de son village, il hésite à se casser le dos sur les parcelles de sa famille, minuscules et sèches, comme le sable, à occuper ses bras en travaillant les terres des colons ou d'un paysan plus riche que lui, ou bien à descendre en ville, à Palestro, travailler comme main-d'œuvre. Aux mines de Boumédran, il a essayé. Ils n'ont pas voulu de lui. Il paraît que le vieux Frank Kawi, à qui il a parlé, a perdu son père dans la révolte de 1871 et qu'il ne veut pas d'indigènes autour de lui. À défaut d'avoir un métier stable, Ali fait un peu de tout. Il est une sorte de paysan ambulant, de paysan volant, et l'argent qu'il rapporte, joint à celui que gagne son père, parvient à nourrir la famille. Ali réussit même à réunir le petit pécule nécessaire pour se marier. Quand il a 19 ans, il épouse une de ses cousines, une adolescente au beau visage mélancolique. Cette union lui donne deux filles. C'est bien dommage, commente sévèrement la famille au chevet de l'accouchée qui en meurt de honte. La maison où il n'y avait plus de mère, dit le proverbe kabyle, même quand la lampe est allumée, il y fait nuit. Le jeune Ali supporte la nuit comme il supporte la pauvreté en se disant que c'est écrit. Et que pour Dieu qui voit tout, cette existence a un sens supérieur aux fragments de chagrin qu'elle ne cesse d'apporter. Au début des années 1940, le fragile équilibre économique du foyer s'écroule lorsque le père d'Ali meurt d'une chute dans les rochers en tentant de rattraper une chèvre fugueuse. Ali s'engage alors dans l'armée française qui renaît de ses cendres et se mêle au bataillon des Alliés lancé à la reconquête de l'Europe. Il a 22 ans. Il laisse sa mère s'occuper de ses frères et sœurs ainsi que de ses deux petites filles. À son retour, l'ellipse de ma narration, c'est aussi celle que fait Ali, c'est celle que connaîtront Hamid puis Naïma lorsqu'ils voudront remonter les souvenirs de la guerre. On ne dira jamais que ces deux mots, la guerre, pour remplir deux années. Il retrouve la misère que sa pension vient d'alléger. Au printemps suivant, il emmène ses petits frères, Jamel et Hamza, se lavaient dans l'ouette grossie par la fonte des neiges. Le courant est si fort qu'il faut s'accrocher aux rochers ou aux touffes d'herbe de la rive pour ne pas être emporté. Jamel, le plus maigre des trois, est terrorisé. Les deux autres rient aux éclats, se moquent de sa peur, jouent à lui tirer les jambes. Et Jamel croit que c'est le torrent qui l'aspire et il pleure et il prie. Et puis, attention! Une masse sombre se précipite sur eux. Au bruit d'éclaboussures et au grondement des pierres raclées s'ajoutent les grincements de l'étrange embarcation qui se cogne contre les rochers en dévalant la pente. Jamel et Hamza se précipitent hors de l'eau. Mais Ali ne bouge pas. Il se contente de se faire tout petit derrière le roc auquel il s'agrippe. Le projectile s'écrase contre son bouclier de fortune, s'immobilise un instant, puis se remet à tanguer, roule sur le côté, s'apprête à céder au courant. Ali escalade son abri et, accroupi sur le caillou, il tente de maintenir en place ce que le flot vient d'apporter. Une machine d'une simplicité confondante. Une énorme vis de bois sombre qui joue au milieu d'un cadre lourd que les eaux du torrent n'ont pas réussi encore à disloquer. « Aidez-moi !» hurle Ali à ses frères. De l'après, on parlera toujours dans la famille comme d'un conte de fées, avec des phrases simples et épurées, des enchaînements faciles et souples qui réclameraient le passé simple. Alors ils sortirent le pressoir de l'eau, le remirent en état et l'installèrent dans leur jardin. Peu importait désormais que leur maigre terre fût stérile, car les autres venaient à eux avec les olives de leurs arpents et eux en faisaient de l'huile. Bientôt, ils furent suffisamment riches pour acheter leur propre parcelle. Ali put se remarier et marier ses deux frères. La vieille mère s'éteignit quelques années plus tard, heureuse et apaisée. Ali n'a pas l'audace de croire qu'il méritait son sort ou qu'il a créé les conditions de sa richesse. Il pense toujours que c'est la chance et le torrent qui lui ont apporté le pressoir, puis les champs, le petit comptoir de vente sur la crête, puis le commerce à l'échelle de la région et surtout la voiture et l'appartement en ville qui viendront ensuite, signes inégalables de la réussite. Il pense par conséquent que lorsque le malheur frappe, personne n'est responsable. C'est comme si le torrent enflait jusqu'à venir reprendre le pressoir au milieu de la cour. Pour cette raison, quand il entend des hommes, quelques-uns, pas beaucoup, dans leur café de Palestro ou d'Alger dire que les patrons créent les conditions de la misère dans laquelle vivent la plupart de leurs ouvriers et manœuvres et qu'un autre système économique est possible, un système avec lequel celui qui travaille aurait droit lui aussi au profit qu'il dégage à parts égales ou presque avec celui qui possède les terres ou la machine. Il sourit et dit « Il faut être fou pour s'opposer au torrent. » Mektoub. La vie est faite de fatalités irréversibles et non d'actes historiques révocables. Voilà donc pour ce soir ce premier extrait du roman de Alice Zénitaire, L'art de perdre, que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.